vous apprêtez à avoir un orgasme intellectuel. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai enregistré cet épisode avec Michel Maffezoli, qui est un sociologue, un philosophe, professeur émérite de la Sorbonne. On parle de beaucoup de choses. On parle des bien-pensants, de l'intelligentsia française, du petit Paris, comme le dirait Juan Branco. Mais on va beaucoup plus loin. Je pense que, je sais pas, chaque minute de cet épisode est exceptionnelle de vision, de compréhension du monde. Donc je vous laisse écouter cet épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour Michel Maffezoli.
Bonjour.
Donc je suis avec vous aujourd'hui. Vous avez écrit un bouquin sur les bien-pensants en 2013. Vous êtes un des penseurs les plus importants en France, je crois, sur fin du 20e ou début 21e. Et j'ai envie de revenir sur cette histoire de bien-pensants. On en parle énormément en ce moment, en particulier avec Juan Branco. Vous avez dit du petit Paris, de l'intelligentsia française, qu'elle avait fait son temps, qu'on arrivait à une sorte de rupture. Pour vous, qu'est-ce qui a changé fondamentalement, en fait ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui fait que ça change ?
Vous voyez, je pense qu'il faut un peu sortir de notre, alors je dis notre cerveau reptilien, hein, c'est-à-dire ce qu'on a intégré sans bien y faire attention, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, etc., qui est le fameux mythe du progrès. Moi, c'était ma critique du progrès, je l'ai faite dans les années 70, dans mes premiers livres, où je montrais que, à l'opposé du linéarisme, hein, c'est-à-dire l'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue, c'est ça le mythe du progrès. Il y a des époques. Époque, permettez-moi, puisque j'aime les étymologies, de rappeler l'étymologie. Époque, en grec, ça veut dire parenthèse. Donc, ce pour dire que est en train de se fermer une parenthèse, l'époque moderne, et est en train de s'ouvrir une autre parenthèse, ce que, faute de mieux, on est certain, je suis de cela, appelle la post-modernité. Bien. Alors, dans ces moments de... d'intersection en quelque sorte entre justement une époque et l'autre, eh bien il y a un désarroi, il y a quelque chose qui fait qu'on continue à seriner des discours que l'on a appris au 18e, 19e siècle, et puis quelque chose d'autre est à l'état naissant. Et voilà ma réponse, vous voyez, c'est-à-dire que cette intelligentsia, c'est bien pensant, gauche et droite confondues d'ailleurs, continue à rester sur ce que fut la grande philosophie des Lumières, sur le mythe du progrès élaboré au 19e siècle, les grandes institutions qui se sont élaborées à partir de l'individualisme, du rationalisme et du progressisme. Voilà le tripode de la postmodernité. Il reste là-dessus, alors que le peuple, quant à lui, ben, vit au présent, vit le qualitatif, est attentif à un hédonisme, met l'accent sur ce que j'ai appelé à l'époque les tribus, etc. Et alors c'est parce qu'il y a ce désaccord, eh bien, qu'il y a, en quelque sorte, ben, voilà, cette grande sécession du peuple qui ne se reconnaît plus dans les élites.
Et aujourd'hui, vous pensez que les élites, justement, c'est une communauté en tant que telle ? Est-ce que c'est une tribu en tant que telle ?
Alors, bien sûr, c'est une tribu qui n'ose pas se revendiquer comme tribu. Hein. C'est-à-dire que c'est très amusant d'entendre des gens qui me contestent sur ce thème du tribalisme former eux-mêmes la tribu des journalistes, la caste des politiques, les experts, les fameux experts qui serinent leur banalité ici et là sur tous les plateaux télévisuels. Ce sont des tribus qui ne se reconnaissent pas comme telles. Mais de fait, si vous voulez, ben, tout simplement, il y a de l'entre-soi. Le propre de la tribu, c'est quand même l'entre-soi, c'est-à-dire serrer les coudes, lutter contre l'adversité qui est ici ou là, etc. Donc oui, je pense que la bien-pensance est aussi une tribu qui ne se veut pas être une tribu et qui donc va critiquer, retenez ce mot, va critiquer le communautarisme. Hein, c'est un terme que l'on critique constamment. Il y a du communautarisme. Non, il y a tout simplement des communautés en gestation qui ne se reconnaissent pas dans la tribu ou dans la communauté des élites.
Et vous pensez que ça va... Ou est-ce qu'il va y avoir justement sécession comme on considérait ça avec les Gilets jaunes, ou est-ce que c'est...
Moi, ce qui me frappe quand même, quand on regarde avec un, comme ça, d'une manière un peu détachée, hein, puisque moi je suis pas, je le dis et je le redis, je n'ai jamais voté de ma vie personnellement. Vous voyez, ce pour dire que je considère qu'il y a une différence entre le savant et le politique, et dans une vieille tradition anarchisante, j'analyse un certain nombre de choses, mais je ne fais pas de préconisation. Alors, dans cette perspective un peu de recul, hein, d'observateur, si je puis dire, je remarque que ces soulèvements populaires sont multiples actuellement. Pour le meilleur et pour le pire, hein. On le voit aux États-Unis, on le voit au Brésil, on le voit en Italie, on le voit en Hongrie, on le voit, bon, on pourrait multiplier à l'infini,
malheureusement.
Ouais. Non, mais peu importe, vous voyez, c'est un signe pour moi, c'est un indice du fait que le peuple ne se reconnaît plus. Voilà, il y a des soulèvements, insurrections, l'Algérie en est un bon exemple actuellement, révolte multiforme. Alors jusqu'à ce que je pense jusqu'à ce que de nouvelles élites émergent. Et moi, je suis attentif à ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est important de voir que ces jeunes générations ne se reconnaissent plus dans les élites en place, mais qu'il y a du grouillement culturel. Je crois qu'il est important d'être attentif à ça. Alors, je ne sais pas si je réponds bien, mais pour moi, il y a cette déconnexion, et en même temps, il y a l'émergence auquel il faut être attentif de ces jeunes générations qui ne se reconnaissent plus dans la philosophie des Lumières, qui ne se reconnaissent plus dans les systèmes sociaux du 19e siècle, mais qui sont en train de bricoler, je dirais, une interprétation du monde.
Parce qu'il y a toujours des élites, finalement, dans une société.
Oui, je pense qu'il y a toujours... Enfin, c'est ainsi, c'est-à-dire que quand on regarde sur la longue durée, on voit qu'il y a toujours des élites, et à certains moments, les élites, pour moi, hein, disons-le simplement, hein, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. On va déléguer la puissance populaire a des pouvoirs institutionnels. Voilà. Et donc, à certains moments, cette délégation, c'est-à-dire on appelle ça la représentation, cette délégation ne marche pas. Et donc, du coup, il y a les fameux bien-pensants qui, d'une certaine manière, sont déconnectés.
Mais d'ailleurs, ce que fait remarquer Ronde Branco, c'est que ce n'est pas représentatif. L'Assemblée est censée être représentative du peuple, et elle ne l'est pas du tout, parce qu'il y a, il y a très peu d'ouvriers, finalement, dans l'Assemblée.
Oui, il faut aller un peu plus profond. Hein. Moi, je n'ai pas lu encore ce Ronde Branco, qui me paraît fort intéressant, je vais le faire. Mais moi, pour ma part, j'ai montré depuis fort longtemps que l'idéal démocratique, c'était un idéal de représentation. C'est-à-dire, j'ai une représentation philosophique, hein, je représente ce qu'est le monde, j'arrive à vous convaincre, et si vous êtes convaincu, vous me donnez votre voix. Hein, c'est ça, représentation philosophique, représentation politique. Et il est des moments où ça marche pas. Hein, c'est-à-dire que du fait, comme ma représentation philosophique, mon interprétation du monde ne marche pas, je ne vous donne pas ma voix. Qu'est-ce qui se passe actuellement? À quelque élection que ce soit, il y a déjà 50% d'abstention. Ou 55% de patients. Ce qu'on ne dit pas, moi j'ai fait plusieurs propositions à divers ministères de l'Intérieur de faire des études qui m'ont toujours été refusées, c'est les non-inscrits sur les listes électorales. Hein, vous voyez, des quantités de jeunes qui déménagent ou autres ne s'inscrivent pas. Bon, ce qui représente entre 15 et 20% de la population en état de voter. Donc vous voyez, quand il y a maintenant une élection, il faut enlever déjà 70% quasiment
des gens.
Des gens de la population. Où est la représentation? Hein, je veux dire, il n'y a pas là un processus de représentation. Donc voilà, c'est ça le vrai problème, cette déconnexion qui existe entre la représentation politique, idéologique, enfin symbolique ou intellectuelle, peu importe, et puis le peuple qui n'est plus représenté. Et l'abstention en est, et la non-inscrit en sont des expressions faramineuses.
Et d'ailleurs, vous faites aussi une critique de la presse, de mémoire, où vous dites qu'il y a une différence vraiment forte entre l'opinion qui est publiée et l'opinion publique.
Oui.
Et finalement, l'opinion publiée, qui est celle des médias, elle est aussi reprise, finalement, par cette intelligence.
Oui, oui.
Ce petit pari, comme on pourrait l'appeler.
Oui, regardez comment, sur, on va dire, 2 ou 3 décennies, c'est fait progressivement, il y a eu une espèce de méfiance vis-à-vis de ces élites. Ça a d'abord été la méfiance vis-à-vis des intellectuels. Mmh. Moi, je vois, pour les gens de mon âge, on respectait Foucault, Deleuze, les grands noms, Lévi-Strauss, etc. Bien. Là, on a vu comment progressivement ces intellectuels sont devenus des experts. Hein, c'est-à-dire des gens qui étaient censés parler au nom des autres et qui, la plupart du temps, sont assez nuls. Bon, premièrement, méfiance vis-à-vis de ça. Deuxièmement, on a vu cette méfiance vis-à-vis du politique, des politiques. Hein. Alors, je passe les détails, mais enfin, il y a cette vraie méfiance. Et le troisième moment, c'est cette méfiance vis-à-vis des journalistes actuellement. Et là encore, repérons comment les grands journaux ne sont que des bulletins paroissiaux, fondamentalement, si je puis dire. Hein. Même en termes de chiffres, moi je ne suis pas un fanat des chiffres, mais quand on voit que Libération, c'est rien du tout, c'est 60 000 exemplaires,
c'est
que Le Monde, qui est censé être un journal de référence, c'est 250 000 exemplaires, Figaro pareil, vous voyez, c'est-à-dire, ce sont ce que j'appelle des bulletins paroissiaux, hein, c'est-à-dire des trucs qui sont lus uniquement par des vieux quand ils mettent leur charentaise et qui regardent la télé ou au coin du feu, des trucs dans ce genre, vous voyez. Donc, là, il y a une lente dégradation. Si je puis me permettre, au 19e siècle, Hegel, un grand philosophe silanais, disait « La lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne ». Voilà. Et quelques décennies plus tard, un esprit aigu, moi, qui m'inspire beaucoup, qui est Nietzsche, parlant de la presse, 1882, dit « Encore un siècle de journalisme et les mots pueront ». Donc, c'était fort. Et en allemand, c'est plus fort que ça encore. Mais enfin, bon, vous voyez, c'est-à-dire que peu à peu, il y a cette espèce de lente dégradation, d'abêtissement de la pensée. Et le journalisme, actuellement, c'est vrai que je critique pas mal ces journalistes dans mon dernier livre. Mon dernier livre s'appelle « La force de l'imaginaire et contre les bien-pensants ». C'est-à-dire, c'est la reprise d'un vieux livre que j'avais fait qui était contre les nouveaux bien-pensants. Et où, dans le fond, je fais un chapitre sur les politiques, un chapitre sur les journalistes, un chapitre sur les experts.
Voilà. Et pourquoi vous pensez que les journalistes... Pourquoi le journalisme se dégrade? Il y a sans doute le fait que ça appartient à des oligarques, c'est-à-dire que majoritairement, les médias auxquels vous faites référence appartiennent à des milliardaires, donc ils servent le propos, finalement, quelque part. Mais pourquoi ça se dégrade aussi? Parce qu'il y a quand même cette idée de liberté de la presse, quelque part.
Oui, c'est de la foutaise, mais enfin... enfin, on peut continuer à le dire. On a des mots qui veulent rien dire. Vous savez, quand actuellement, il y a beaucoup de mots qui sont des incantations.
Hein. C'est ça.
Liberté de la presse, machin, chose, etc. On ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer, je rappelle. Moi, vous voyez, ça s'appelle l'incantation. Donc, quand on dit des choses auxquelles on ne croit pas fondamentalement. Alors, voilà. Moi, mon hypothèse est la suivante. Dit en termes un peu soutenus. Quand s'est élaborée la presse au 19e siècle, il y avait d'abord, comment dire, il y avait une pensée ésotérique, la pensée philosophique, profonde. Et puis il y avait de l'exotérisme, c'est-à-dire, pour qu'il y ait de l'exotérisme, c'était la presse, c'est-à-dire on rend public quelque chose, il faut qu'il y ait du secret, de l'ésotérisme. Et c'est ce que faisait Hegel, qui a fait une œuvre difficile philosophiquement, ésotérique, si je puis dire, et puis qui avait cet exotérisme. Or, progressivement, la presse, et la presse, si vous voulez, ne faisait que vulgariser, on disait rendre public, c'était des publicistes. Ils rendaient public ce qui avait été élaboré au niveau de la pensée. Là, actuellement, ben voilà, il n'y a plus cette référence à l'ésotérisme, dans le sens métaphorique du terme. Il n'y a plus une référence à la profondeur de la pensée, et du coup, ça s'abêtit. Voilà mon sentiment concernant la presse. Vous voyez, du moins qu'elle n'est pas enracinée dans quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur, eh bien, ça devient du tout venant. C'est les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, quoi, que personne ne lit plus trop, etc.
Et qui réagissent beaucoup aux médias sociaux, d'ailleurs. Vous faisiez référence.
Voilà, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est là où c'est intéressant. C'est là qu'il faut voir ce qui est en gestation actuellement. Nous sommes, nous, en France, en retard d'une guerre là-dessus. Moi, je vais souvent au Brésil et je vois comment ce qu'ils appellent au Brésil le net activisme, par exemple, c'est-à-dire que c'est sur les réseaux que se font les grands rassemblements, de quelque ordre que ce soit, et même des oppositions aux politiques, sous ces formes multiples et diverses. Voilà. Donc c'est les réseaux qui sont tout à fait alternatifs à ce qu'est, encore une fois, cette presse officielle, le mainstream. Et que ça marche plus.
Et vous dites aussi que la presse, les médias, c'est là où ils génèrent quelque part de la xénophobie, du racisme. J'aimerais bien comprendre pourquoi vous dites ça.
Non, je dis que quand... pas que la presse, je dis que quand... revenons sur cette idée d'élite quand même. C'est-à-dire que quand une élite ne sait plus dire ce qui est vécu, quand il y a un désaccord entre le peuple et cette intelligentsia, cette élite, etc., c'est là où justement, c'est dans cet écart que se nichent les discours de haine, de xénophobie et de racisme. Voilà. C'est-à-dire que si l'intelligentsia ne sait pas dire le vécu, c'est-à-dire fonctionne uniquement sur une conception moraliste, et bien du coup, il y a cette espèce d'explosion xénophobe, raciste, etc. Le prototype, voyons, parlons clair, c'est ces intellectuels qui sont des bourgeois décadents, comme BHV, il s'appelle,
BHL.
Non, BHL, oui, BHL. Je l'appelle BHV parce qu'il vend des trucs bas de gamme. Et bien ce BHL est arrogant. Et il va vitupérer contre le peuple, contre les gilets jaunes, etc. Au nom de quoi, lui qui habite 244 boulevard Saint-Germain, donc au nom de quoi, au nom, bien évidemment, de cette espèce de fortune qui est la sienne, qui est censée parler au nom des gens et du peuple. Là, c'est le prototype, d'une certaine manière. L'adresse que je viens de donner n'est pas la bonne, je précise. Mais voilà, on a là le prototype de ce désaccord. Du fait que, d'une certaine manière, cela ne peut que susciter ce que j'appelle ces discours de haine, après, de xénophobie et de racisme.
Et vous parliez tout à l'heure de communautarisme et communauté. Vous pourriez différencier les deux concepts, peut-être. C'est intéressant parce que effectivement, en ce moment, on parle énormément. On voit la montée et les gens ont peur. Enfin, à cause de ce que vous venez de décrire, de la montée de l'islamisme, mais on voit aussi quelque part une montée du religieux catholique également dans certaines couches. Donc, on voit quelque part des formes de tribus qui sont en train de se créer. Et justement, quand on parle de marketing, donc il revient à mon métier, mais on a tendance à se dire bah, il faut plus cibler les gens en fonction des CSP, mais en fonction des communautés dans lesquelles ils appartiennent.
Ouais.
Ça serait intéressant de différencier les deux concepts
oui.
à partir de là.
Alors, et...
c'est compliqué.
Non, c'est pas compliqué. Non, c'est même simple le problème, même si on en a peur. Pourquoi ? Parce que, en particulier en France, qui a été l'endroit où s'est élaboré, dans le fond, moi je dis la France, l'Europe en général, mais la France en particulier, ça a été le laboratoire de la modernité. Et on a vu comment, au XIXe siècle, ce laboratoire de la modernité a évacué les différences, l'altérité, les modes de manière d'être qui n'étaient pas uniformes. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce sociologue qui est un peu fou, qui est mon compatriote, Auguste Comte. Et un fou génial. Et Auguste Comte, définissant la société du 19e, dit, en latin, excusez, reductio ad unum, réduire à l'un. Et dans cette petite formule, ça a été en quelque sorte cette conception de la France, la République une et indivisible, hein, c'est-à-dire quelque chose qui évacuait les spécificités, les différences, les manières de parler, les patois, etc. Bon. Toutes les spécificités même locales. Et donc, de fait, il y a eu cette conception d'une république une et indivisible, c'est-à-dire où on a réduit la différence. C'est les hussards noirs de la République, c'est les instituteurs qui ont développé bellement, d'ailleurs moi j'en suis un produit, de cette conception de cette république, encore une fois, qui n'est pas fragmentée en régions, en cantons, etc. Bon. Ça a marché, ça marche plus. Et donc, du coup, on voit ressurgir, alors moi j'avais dit tribu à l'époque, maintenant je dis communauté, peu importe les termes, de ce point de vue, j'ai pas de fétichisme de mots là-dessus, on voit ressurgir ces diverses communautés. Alors, comme toujours, quand quelque chose ressurgit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça peut être le djihadisme, qui est aussi une forme de communauté, mais ça peut être aussi les nouvelles formes de solidarité, les nouvelles formes de générosité, d'entraide sur les réseaux internet, ça n'est un exemple, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'exemples en ce sens. Alors, comme cette intelligentsia reste figée sur le modèle de la République une et indivisible, quand on voit l'émergence de ces communautés, on va parler de communautarisme, c'est-à-dire une manière de stigmatiser. Alors moi, je fais une proposition dans mes derniers livres, je dis plutôt que de stigmatiser, essayons de voir s'il n'y a pas en gestation un idéal communautaire. C'est-à-dire, comment vont s'ajuster ces tribus les unes par rapport aux autres, ces communautés les unes par rapport aux autres. Non pas dans une... C'est revenir à la vieille idée de la res publica, la chose publique. La république, c'était la res publica. C'est-à-dire, chacun avait ses spécificités et on arrivait à cohérer ensemble. Une harmonie qui n'est pas forcément une harmonie simple, une harmonie que j'appelle, moi, conflictuelle. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà un peu mon hypothèse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on continue à stigmatiser au nom de communautarisme le fait qu'émerge des nouvelles manières d'être ensemble. Juste petite parenthèse, voyez. Une grande dame de la pensée qui est Hannah Arendt, une grande philosophe allemande, a montré comment au XIXe siècle s'était élaboré l'idéal démocratique. C'était pas facile de mettre en jeu la démocratie. Il y a eu des reculs, des oppositions, machin, chose, etc. Et puis, au bout d'un moment, il y a cet idéal démocratique qui s'impose. Et c'est en prenant cet exemple que moi je dis, nous sommes en train de vivre l'émergence de l'idéal communautaire. Avec les mêmes difficultés, les mêmes retours en arrière, les mêmes dangers que cela peut représenter. Mais après tout, cela peut aboutir, encore une fois, à une forme de cohésion. Moi, je dis harmonie. Une harmonie qui ne repose pas sur le dépassement des problèmes, mais sur la tension des problèmes les uns par rapport aux autres. Harmonie conflictuelle.
Et d'ailleurs, vous faisiez référence, en ce moment, il y a beaucoup de repli sur soi. Vous parliez du Brésil, l'Italie, la Pologne. Donc, en fait, il y a beaucoup de repli sur soi avec des partis qui sont plutôt extrémistes. Est-ce que vous pensez que c'est un mal nécessaire pour passer à une autre étape ensuite ?
Peut-être, j'en sais rien, là, je suis pas un prophète.
Non. mais c'est intéressant, ce moment.
J'essaie d'analyser des choses, j'ai pas envie, encore une fois, j'ai dit de faire des préconisations. Mais à mes amis brésiliens, qui étaient affolés, j'étais au mois de septembre, là, quand il y a eu les élections du type en question, ils étaient catastrophés. Et à bien des égards, à juste titre. Mais en même temps, je vois tel ou tel de mes amis, grands intellectuels, ils disaient, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Ben, je dis, c'est à votre faute. Ça veut dire, c'est parce que justement, vous n'avez pas su dire ce qu'étaient les valeurs du peuple, etc. Intéressant de voir que si on prend l'exemple du Brésil, et on peut dire, on pourrait dire la même chose en Italie ou aux États-Unis, c'est, bon, différent quant au lieu, mais ce sont les favelas qui ont voté pour Bolsonaro. Vous voyez, les favelas, c'est-à-dire les endroits où le peuple vivait mal, où était dans la souffrance et dans la précarité, à bien des égards. Et que, avenue Copacabana, avec mes amis bourgeois qui ont des beaux immeubles, etc., eux, ils votaient machin chose. Enfin, je sais pas pourquoi, le Parti des Travailleurs ou autre, peu importe. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a un processus de déconnexion qui fait qu'à un moment donné, il y a une révolte des peuples. J'ai bien dit. Quand il y a ces révoltes, ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Mais alors, est-ce que c'est, vous dites, mal nécessaire? J'en sais rien. En tout cas, c'est ainsi. Voilà.
C'est ouais, je suis comme ça se passe dans tous les pays, c'est intéressant.
Exactement,
quand même.
C'est un problème et qui n'est pas fini, à mon avis.
Ah ben non, parce qu'en France, on a évidemment
France,
peur
bien sûr,
de l'extrémisme.
Bien évidemment.
Parce qu'en fait, c'est la même chose qui est en train de se passer.
Oui, moi, je le pense. Moi, je pense qu'il y a là une montée de l'extrême droite qui est un symptôme. Alors, je vais dire un symptôme. Pour ne pas aller plus avant.
Symptôme de la déconnexion.
Voilà, de la déconnexion, du fait que je ne me reconnais plus dans. Voilà.
Et vous disiez que vous n'avez jamais voté, vous ne croyez pas dans le politique?
Non, mais je n'ai pas envie. Bon, ça a été écrit, je l'ai dit, je n'ai pas envie de m'en cacher, je ne veux pas non plus en faire un titre de gloire. Hein,
non.
Je ne veux pas. Je ne suis rien du tout qui peut. Je n'ai pas à donner des leçons à qui que ce soit. Non, tout simplement, comment dire? Moi, j'étais formé, je vois, à Strasbourg, un de mes maîtres était Julien Front, qui était un grand spécialiste du politique, qui a écrit un gros livre qui s'appelle « L'essence du politique », 900 pages. Je lui demandais, vous pouvez me résumer, professeur, qu'est-ce que c'est que l'essence du politique? Et il m'a dit, ma Fézoli, le politique, c'est le projet. Vous voyez, c'est-à-dire le lointain. Alors qu'il montre bien dans son livre que, en son sens étymologique, la politique, polis, c'était la gestion de la cité, c'est-à-dire du proche. Et que peu à peu, ce proche est devenu lointain. Voilà en quel sens, si vous voulez, on ne se reconnaît plus dans le politique. Si on revenait au politique dans le sens de la police, de la cité, de la ville, et de la gestion de la ville, ce qui continue à exister dans les maires, vous voyez, dans les cantons, enfin des choses très proches. Hein, moi, je suis du sud de la France. Quand on dit le pays, ou païs, en patois, ben c'est le canton, c'est les quatre villages qui sont autour, vous voyez, etc. Alors, le politique est devenu lointain. Projectif, et donc du coup on ne se reconnaît plus dans le politique. Voilà mon hypothèse, vous voyez, c'est-à-dire que j'avais écrit un de mes livres qui s'appelait La transfiguration du politique, c'est-à-dire pour montrer que le politique n'était plus la gestion du proche, mais était devenu le projet, hein, comme disait Freud, le lointain, etc. Et actuellement il y a cette déconnexion qui fait qu'on ne se reconnaît plus dans le lointain. Voilà. Et qu'il y a retour du lieu. Hein, moi, je dis le lieu fait lien. Hein, c'est-à-dire, ouais. Dans le fond, quelque chose qui fait que le localisme, sous ses diverses modulations, les gilets jaunes en sont un bon exemple. Les ronds-points, c'est du localisme. Hein, c'est-à-dire, ça papote, ça discute, ça s'entraide à partir du lieu. Voilà, à partir de ce que l'on vit avec d'autres ici et maintenant. Voyez, voilà. Voilà en quel sens le politique, vous voyez, dans Orwell, Le meilleur des mondes, il y a cette petite formule amusante du romancier. Il dit, à certains moments, les choses sont désignées comme étant des antiphrases. Alors l'antiphrase, il donne un exemple. Le ministère de la guerre est appelé ministère de l'amour. Voilà une antiphrase. Vous voyez ? Eh bien, la politique, actuellement, c'est une antiphrase. Hein, c'est-à-dire, au lieu d'être la gestion du proche, c'est ce qui renvoie au lointain. Voilà en quel sens elle est, pour moi, saturée.
Et en même temps, j'ai la sensation, puisqu'on parle du lointain, que, à part la Chine, finalement, il n'y a pas vraiment de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que des visions dystopiques du monde et on n'a pas vraiment de projet pour la... Enfin, je vois... Moi, qui suis un peu plus jeune que vous, je ne vois pas de projet pour la France à 10 ou 20 ans, je n'en vois pas.
Mais parce que tout simplement, alors là c'est une autre de mes dadas quand même, hein, c'est de dire qu'on comprend une civilisation à un moment donné en fonction de la temporalité qui est la sienne. Passé, présent, avenir. Ce qui a été le grand mythe moderne, on le disait au début, c'est le projet, c'est-à-dire le progrès. c'est-à-dire une énergie qui se projette, etc., etc. Bien, pro, ça veut dire en avant. Voilà. Et de fait, alors voilà, ça, ça a été la modernité des 17e, 18e, 19e. Ça a bien marché jusqu'aux années 60 du 20e siècle. Il fallait avoir des projets. Hein, voilà. Maintenant, vous ne faites pas dire à votre gosse quel est son projet de vacances. A fortiori, quel est son projet de vie. Il n'y a plus cette projection vers l'avenir. Et du coup, il y a, et c'était moi, un des éléments de ma thèse d'État à l'époque, il y a ce que j'appelle le présent, le présentéisme. L'importance de ce qui est vécu ici et maintenant, non plus un sens lointain, mais une signification proche, si je puis dire, proxémique. On n'a pas ce mot en français, hein, c'est l'école de Palo Alto qui a cette expression, la proxémie, c'est-à-dire vivre avec d'autres, une relation entre l'environnement social, l'environnement naturel, le localisme, etc. Donc oui, il n'y a plus de projet, je suis d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une énergie qui se focalise sur le présent. Voilà, mon hypothèse, ça va être que ce présentéisme va devenir de plus en plus important. Moi, j'ai appelé cela la conquête du présent, hein, c'est-à-dire le fait que, en termes plus soutenus, en grec, il y a le chronos, la chronologie, le lointain, et il y a le kairos. Alors, kairos, c'était un dieu qui était chauve, hein, comme vous avez beaucoup de cheveux. Et du coup, on ne pouvait pas le saisir par les cheveux quand il avait tourné les talons. Et kairos, c'est l'opportunité, c'est la bonne occasion, hein, c'est saisir l'instant éternel, ce que j'appelle moi l'instant éternel. Voilà pourquoi je dis, oui, il n'y a pas de projet, et en même temps, il y a une intensité, hein, ce que je vis ici et maintenant.
Et alors moi, je vais vulgariser énormément, mais en ce moment, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de... être au moment, au temps présent, il y a un retour de la méditation, il y a un retour du yoga, il y a tout ce retour effectivement à être présent à soi.
Oui, ce mot de la cette idée de présence est très importante, vous voyez. Avec ça va être mon prochain livre qui va paraître en janvier prochain sur le sacral. Le retour, donc c'est du religieux mais d'une manière diffuse, vous voyez, c'est-à-dire non pas les grandes institutions religieuses, les diverses églises institutionnelles, mais ce que vous venez de dire, un peu de candomblé, un peu de tantrisme, un peu de yoga, un peu de méditation sous ces diverses modulations. Oui, il y a ce retour de la religiosité, et moi j'emploie ce mot, ce néologisme, le sacral.
Vous pensez que la société va changer de spiritualité quelque part?
Alors disons que vous voyez...
Moi, je parle de spiritualité, mais peut-être que j'ai tort.
Oui, oui, non, mais moi, je trouve que c'est un beau mot et que c'est toujours délicat à l'employer. Hein. Moi, je vois dans mes conférences, j'ai toujours du mal à dire spirituel, mais je le dis de plus en plus quand même. Hein, parce qu'en effet, c'était un mot qui était stigmatisé, vulgarisé, mis de côté, etc. Pourquoi ? Vous voyez, un des grands penseurs de la modernité, qui est Max Weber, un sociologue, économiste, peu importe, allemand, a écrit un livre qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », c'est-à-dire montrant comment il y a un rapport entre le protestantisme, la protestantisation, qui est très rationnelle fondamentalement, et le capitalisme. Et la définition qu'il donne est très simple, rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, aboutissant à ce qu'il appelle le fameux désenchantement du monde. On a traduit ça en français, Entzauber und der Welt, mais Zauber, c'est le magie, il faudrait dire démagification du monde. Ça a été le rouleau compresseur du rationalisme qui a évacué le spirituel, qui a évacué le culturel, qui a évacué, je dirais, ce qui était sans prix, ce qui n'était pas directement utilitaire. Voilà. Et pour moi, dans ce que j'appelle la postmodernité, ben, il y a retour, encore une fois, de ce qu'on avait laissé de côté. Le spirituel est du nombre, le qualitatif est du nombre, le culturel est du nombre. Vous voyez, c'est pas simplement le 1% culturel, mais au contraire, quelque chose qui va se diffracter dans la société. Alors oui, moi je crois qu'il y a retour de ce spirituel multiforme. C'est intéressant de voir comment ces jeunes générations, ben en effet, font de la méditation, font du yoga, font du tantrisme, participent à des quantités de phénomènes que, dans notre tradition, on stigmatisé. Alors là, encore une fois, excusez-moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le réenchantement du monde
». Justement.
Et le réenchantement du monde, c'est un peu tous ces éléments-là qui me paraissent revenir, retrouver une force et vigueur indéniable, en particulier, bien sûr, chez les jeunes générations.
Ça, c'est hyper intéressant parce que effectivement, je pense que aujourd'hui, on nous propose beaucoup d'images dystopiques, en particulier en rapport avec l'écologie. Et je crois qu'on a vraiment énormément besoin justement de réenchanter le monde. Je crois que Les jeunes générations, elles cherchent ça. Et quand je parle de nouvelle spiritualité, il y a aussi une spiritualité qui est pas dans le tout économique, dans le fait de posséder pour réussir ou d'avoir une conception différente de la réussite finalement d'ailleurs, mais qui est plus quasiment dans une forme de bouddhisme, dans le contentement. Y a aussi ça qui est en jeu, peut-être, non?
Tout à fait. Moi, j'ai pris mes distances vis-à-vis de l'écologie, mm-hmm. parce qu'en particulier en France, ça a une dimension pas trop politique. Mm-hmm. Voilà. Hein. Et j'ai proposé un des titres d'un de mes livres s'appelle Écosophie.
Mm-hmm. Hein, bien sûr.
Pour rendre attentif, encore une fois, à l'étymologie, oikos, c'est la maison. Sophie, c'est la sagesse. Donc, la sagesse de la maison commune. Voilà. Donc, moi, il me paraît qu'il y a ça qui est en gestation actuellement, c'est-à-dire ne plus perdre sa vie à la gagner, faire de sa vie une œuvre d'art, être attentif dans le sens fort du terme, non pas simplement au quantitatif, mais au qualitatif. Voilà. Ce qui a dominé dans la modernité, c'est quand même une conception, dans ce rationalisme que j'ai dit, dans ce progressisme, c'est l'utilitarisme. Ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Un des grands penseurs, moi, qui m'inspire beaucoup, qui est Martin Heidegger, a poussé jusqu'au bout cette idée en montrant qu'il parle le monde comme l'ustensilarité. Hein, c'est-à-dire, on va considérer les autres, le monde, soi-même, comme des ustensiles de cuisine que je peux manipuler, que j'ai à la main. Pour moi, c'est fini, ça, vous voyez. C'est-à-dire, il y a, encore une fois, ce souci beaucoup plus du qualitatif. Et le spirituel, sous ses diverses modulations, n'est qu'une, pour moi, une des manifestations de ce qualitatif. Hein, je dis bien ne plus perdre sa vie à la gagner. Hein, et que c'est intéressant de voir que ce n'est plus sur la valeur travail que vous allez mobiliser de l'énergie juvénile. Par contre, l'idée de création, créer, créatif, c'est-à-dire reprendre dans le fond toute une série de paramètres que l'on avait laissés de côté. 70% du trafic d'Internet, c'est le ludique, le festif, c'est, je dirais, des réseaux philosophiques, religieux ou érotiques. Voilà des éléments qui montrent bien que c'est plus simplement la fonctionnalité qui va prévaloir. Voilà pour moi la tendance.
Ouais, voilà. D'ailleurs, les entreprises ont du mal parce que maintenant, les gens veulent plus réussir leur vie, ils veulent réussir leur vie.
C'est-à-dire, nous, justement, dans mon centre, on avait fait à l'époque, pour le MEDEF, une étude sur le fameux turnover des cadres. Hein, pour comment ça se faisait, que ça circulait, etc. Internet aidant, les réseaux sociaux aidant, on allait là, on quittait son entreprise parce que là-bas, c'était fun, c'était cool, vous voyez. Mm-hmm. Donc, il va falloir gérer le fun et le cool, vous voyez. Quelque chose où encore, on avait fait ressortir qu'il y avait une forme d'héliotropisme, hein, le désir du soleil, en quelque sorte. Vous voyez. Et donc, voilà, on ne peut plus gérer, par exemple, une entreprise uniquement en termes de taylor, hein, le taylorisme purement rationnel qui évacue les autres aspects. Là, il y a retour en force, c'est chez jeunes générations, encore une fois, de ce qualitatif, je dis bien, le fun, le cool, le bien-être, le plus-être, sous ces diverses modulations.
Et puis, je crois que dans le taylorisme, il y avait aussi cette idée que l'homme était considéré comme une machine, quelque part.
Tout à fait, c'était le pur rationalisme, hein, c'est-à-dire on va évacuer les affects, les sentiments, les passions. Moi je pense qu'il y a retour en force de cet émotionnel. Et l'émotionnel, c'est un terme de Max Weber là encore, qui montre que c'est une ambiance dans laquelle on baigne. Alors il y a cet émotionnel sportif, musical, religieux, etc. Et bon, ben voilà, c'est cela qui est en train de retrouver cette force que j'ai dit il y a un instant.
Génial. Et alors ce podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi vous voulez claquer, ouvrir la porte, ou soit claquer, soit ouvrir, soit les deux, comme vous voulez.
Oui, ben, il faut fermer la porte vlam sur la gueule des bien-pensants, déjà, et donner à ce vlam toute sa dimension, de ce point de vue, qui ne représente plus grand-chose, ainsi qu'on l'a dit, hein, qui sont totalement abstraits du réel, et puis ben, ouvrir alors cette porte sur ce qu'on vient d'indiquer, c'est-à-dire dans le fond ben, c'est cette énergie, encore une fois, quelque chose qui n'est plus progressif mais qui est ingressif, c'est-à-dire qui va renvoyer au qualitatif de l'existence. Vous voyez, moi j'ai rendu attentif au fait que dans ces moments de décalage, il y a un désaccord fondamental entre la société officielle et la société officieuse. Voilà. Et donc, on va fermer la porte peu à peu à cette société officielle, qui ne représente plus grand-chose, et puis il va ouvrir la porte à cette société officieuse, qui représente dans le fond le vitalisme à venir.
Mais surtout, il ne représente plus grand monde. C'est-à-dire que c'est un entre-soi parisien, qui représente plus
que... C'est même pas parisien, c'est le triangle d'or de 6e, cinquième et quatrième rendez-vous, septième, enfin ça dépend
des choix. C'est les Grenades Alsaciennes, c'est
voilà,
Sciences
par
Po.
Exemple.
C'est...
Et là, il y a cette vraie déconnexion. Encore une fois, soyons clairs, ça peut engendrer des formes que j'ai dites de pire. Hein, c'est-à-dire de la démagogie sous ces diverses modulations, et l'actualité n'est pas avare d'exemples en ce sens.
Non. Merci beaucoup, Michel.
Voilà, merci
top.
Beaucoup. Merci bien.
Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.